Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 24 mai 2008 et il pleut dehors.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère. Saint-Lime dans vos oreilles avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec une grosse poubelle qui me gêne la vue du planning, suivi de...
Ben ouais, suivi d'eux. Hein. Ben
ça, c'est du sport à 13h.
Et ensuite
à 15h, c'est du reggae avec Jazz Not Dead. 17h, la découverte musicale avec ça, c'est de la bonne viande. 18h, Big Bang, c'est de la grosse explosion. 19h, de l'électro avec Made in Trance. 20h, de la stéréo expérience avec DJ Jésus. 21h30, du two-step avec Nuff Love. Et à 23h, du live avec Le Potager. C'est les démarrages un petit peu sec aujourd'hui. Ça va Thomas, j'espère
oui.
Que tu vas bien.
Ben moi ça va impec, et toi?
Ça ira mieux quand j'arriverai un petit peu à recaler tout le reste aujourd'hui. Donc moi j'ai des BD. Thomas, je ne sais pas ce que tu as. Du sport, il a des trucs, mais je sens que ça va être un petit peu
une émission avec des trucs aujourd'hui.
Complètement au hasard, comme on dit, hein, un petit peu. Allez, on commence. Je rappelle que la programmation dans cette émission qui de cette radio d'opposition municipale est ce mois-ci intégralement axée sur mai 68. Na.
Quand tu veux.
Aujourd'hui, comment dire, 1, il fait froid, 2, il pleut, 3, tout le monde est en pull.
Non, il fait pas froid, on est en t-shirt de geek là.
Un t-shirt de geek, encore un combat de geek, JB va passer tout à l'heure, Manu est parmi nous. Ouais. j'ai pas encore une fois je suis en retard d'une semaine dans la production, dans la mise en ligne du podcast. Et point de vue semaine, on a eu une semaine ma foi tout à fait tranquille et normale. Enfin Thomas, je n'en sais rien vis-à-vis de tes sponsors. Toi, tu as suivi le festival de Cannes comme d'habitude.
Ah ouais, grave.
Sur les blogs et la télé, c'est à cause quand même ça coûte moins cher qu'envoyer un journaliste sur place, moyen que nous ne pouvons pas accomplir dans l'immédiat, mais bon, ça on verra pour la suite. Point de vue bande dessinée, quand même trois grosses sorties, pardon, quatre, puisque du sport va faire un sujet sur un dieu mythologique qui est allé se compromettre quelque part sur le nouveau continent du côté du Vinland. Ça, on verra ça tout à l'heure. Thomas, lui, a fait un sujet cinéma assez costaud, évidemment. Cannes oblige, où il va parler en long, en large, en travers, bien évidemment.
Oui,
des photoshoots.
Vous connaissez l'esprit de notre émission, nous allons avant tout parler des stars qui seront là, qu'est-ce qu'elles ont mis comme tenue, etc. Et puis les paillettes, est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, cette année?
Voilà.
C'est génial.
C'est ce week-end, non, la remise
C'est demain, je crois. Ou attends, ça a été changé à l'époque de Tarantino, alors je sais pas s'ils ont gardé le fait que la palme soit remise le samedi. Ce qui permettait de faire la conférence de presse le lendemain pour expliquer leur choix. Je sais pas si c'est toujours d'actualité.
Oui, enfin, ça sont des. C'est le gros big bazar. Voilà, ceci dit. Si vous voulez participer à l'émission, c'est très simple. Vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Vous allez vous chercher supplément week-end, MP3, supplément week-end FMR. Voir, vous êtes carrément déjà dessus si vous nous écoutez en ligne. Et n'hésitez pas, il y a un coin en haut à droite avec marqué « Posez votre question ». Alors là, j'ai eu le temps de rien faire. J'ai même pas préparé les questions, c'est dommage. On va commencer à faire gagner des trucs parce que je commence à avoir un bureau légèrement encombré de trucs.
Ça fait quand même 3 mois que tu nous tannes avec ça et bon, on a toujours rien.
Il faut essayer
vu
d'appeler venir. Les gens et
si,
tout.
Si. Je voudrais dire quand même parce qu'on a.
On en a eu
des questions qui attendent depuis 2 mois qu'on en parle à la radio et Peanuts.
Oui, je sais, d'accord, ok, j'ai honte. Ceci dit, on vous avait annoncé que normalement ce week-end c'était la nuit bleue, que les fréquences changeaient sauf la nôtre, que les horaires changeaient avec peut-être le nôtre, etc. Aux dernières nouvelles, la fameuse Neva, dite nuit bleue, moment où on prend toutes les fréquences des radios, on les passe dans un shaker, et on les change toutes, et ben aura lieu donc courant juillet, donc il se peut que la nouvelle grille on l'inaugure courant de cet été, donc avec de nouveaux programmes, nouveaux horaires, en tout cas pour ce qui est de nous, enfin, quoique en plein été je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'émissions qui tiendront le choc. Donc, on vous promet qu'on va préparer à l'avance avec des best-of bien à nous, d'ailleurs des trucs que vous auriez même pas remarqué en temps normal. Voilà. Un petit peu de coolitude musicale pendant que moi je vais essayer de rattraper le gros bazar. Zou. Émile Bravo est un dessinateur qui a une patte d'abord à la plume, plutôt ligne claire, et qui là s'est prêté à un jeu assez étonnant. C'est une collection d'aventures de Spirou, une aventure de Spirou et Fantasio par. C'est un one-shot qui est dessiné par des auteurs différents et emblématiques de la bande dessinée franco-belge. Par exemple, le précédent, c'était Franck Le Gall qui s'était attaqué un petit peu à la mythologie champignacienne. Et ben là, c'est Émile Bravo qui s'est intéressé aux origines du personnage. Le tome 4 s'appelle le journal donc le journal d'un ingénu, une aventure de Spirou et Fantasio par Émile Bravo. Ça vient de sortir chez Dupuis. Enfin, depuis déjà un bon mois. Spirou a été créé par Rob Well en 1938. C'est 10 ans après que sortent ses albums d'aventures dessinées par Franquin. Mais que lui est-il arrivé entre-temps ? C'est un intéressant retour aux origines. Bon, dans le comics, on parle de reboot. Que propose Émile Bravo ? Le temps d'une histoire complète. Dans le comics, on dit one shot.
Oui, bon, ça va.
Pour le seul personnage franco-belge d'envergure qui appartient plus à son éditeur qu'à ses auteurs. Dans le comics, on dit franchise.
Oui, bon, si t'es un maître lourd, t'aurais dû rajouter que Spirou est contemporain de Superman.
Oui, bon. Pardon. Excusez-moi. Émile Bravo, donc, s'est donc intéressé à ce qu'était le Spirou jeune en 1938. Un groom au moustique hôtel de Bruxelles, sous les ordres d'un peu aimable entresol qui ressemble graphiquement beaucoup au personnage principal du dernier des hommes, le film réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau en 1924. Spirou est encore pétri d'innocence, voire même puceau. Il se débrouille tout seul par nécessité, étant orphelin, très populaire dans son quartier. C'est lui qui arbitre les matchs de foot, car sinon les petits gars du quartier en feraient immédiatement une mêlée de boxe. Bref. Spirou a sa petite vie, des gamins qui courent au basque, un job chichement payé dans un hôtel de luxe, comme on en faisait à l'ancienne. S'il n'y avait l'Allemagne vociférante et la menaçante Union soviétique, l'été 1939 serait bien agréable. Et c'est justement en catimini à Bruxelles que se rencontrent les émissaires polonais et allemands. On pourrait finalement croire que les prédictions des Cassandres après Munich ne sont que des exagérations. La vie continue au moustique hôtel. Spirou découvre une fort charmante jeune fille de service et des clients se croisent à la réception. Comme le boxeur Choukroun, accompagné de la styliste Delastre, vivant leur idylle en toute discrétion. Hélas, un tel scoop ne pouvait échapper aux journalistes people les plus collants, comme Fantasio, spécialiste du potin. L'adolescent se trouve à la croisée de plusieurs chemins et doit désormais faire des choix parfois contradictoires. Laisser son cœur parler ou sa conscience politique. Spirou n'est pas né à une époque facile, et l'Europe, qui a connu la violence de la Grande Guerre, se sent cernée entre deux fronts que l'on imagine dès la couverture. On y trouve les numéros de pages cerclés de ronds, comme dans les vieux albums de Tintin, que le Spirou espiègle, le coup de pied d'ailleurs de la page 11 rappelle immédiatement les gags de cette époque, lit justement dans son petit 20e. Bref, cet album s'adresse surtout aux adultes et à ceux qui ont lu et connu les premiers albums, ainsi que ceux des personnages d'Hergé. À côté de Tintin, c'est bien évidemment les contemporains Kik et Fluk, qui eux aussi mettaient le bazar à Bruxelles, qui viennent immédiatement à l'esprit. On constitue une délicieuse époque surannée, encore innocente, et la fin se laisse imaginer par le lecteur. Une aventure de Spirou et Fantasio par Émile Bravo, le journal d'un ingénu, est sorti chez Dupuis. Parler d'un immense coup de cœur pour le Spirou par Émile Bravo, oui, voilà, largement. Mais c'est loin d'être le seul cette semaine, comme vous allez pouvoir le voir. Frédéric Duval au scénario et Philippe Ogaki au dessin. Meteors, le premier tome s'appelle Rain Digital, vient de sortir dans la collection Série B chez Delcourt. Série B est en plus en fait une dénomination de studio que une réelle collection. Noria est une jeune adolescente dépressive. Sa mère est officier dans un cargo commercial engagé dans des voyages de plusieurs années. Heureusement, elle est en stase, mais la prochaine fois que Noria verra sa mère, elle aura quasiment le même âge qu'elle. Un état difficile à accepter malgré le privilège qu'elle a d'avoir un mémoriel, une connexion neurale avec Internet, ou une espèce de disque dur de complément dans son cerveau, ou encore une poupée IA pour la guider. C'est pour ça qu'elle est partie dans une randonnée mortelle en plein Sahara, une zone de très forte pollution nanotechnologique, par envie de suicide. Sur la Terre du 22e siècle, les lois fondamentales de la robotique ont tellement été bien appliquées par les intelligences artificielles, IA, de dernière génération, qu'elles ont décidé de se faire légalement élire comme gouvernement à la place des humains pour les sauver de la destruction de l'écosystème. Mais tous les hommes ne sont pas exactement d'accord avec ce paternalisme informatique. Il existe des réserves sans IA où les humains sont bannis des systèmes informatiques intelligents, où ils les ont refusés, littéralement. Théoriquement, aucune arme n'y est entreposée. Mais la petite excursion de Noria l'a confrontée à un commando militaire en exosquelette. La petite fugueuse, sauvée de la mort, se trouve ainsi kidnappée. Tandis qu'une découverte stupéfiante cause un drôle de remue-ménage dans les cercles du pouvoir virtuel. Le cadavre d'un cosmonaute a été découvert, largement au-delà de l'orbite terrestre, ce qui confirmerait l'existence de failles dans l'espace. Une probabilité statistique pour accélérer le voyage intersidéral et donc les rencontres extraterrestres. Et si le parti humain anti-IA faisait collusion avec les E.T. ? C'est une option que les ordinateurs pensants ne veulent pas laisser passer. Encore une œuvre d'anticipation sur la difficile cohabitation entre les ordinateurs pensants et les hommes. Encore une science-fiction fortement inspirée de Masamune Shirow, auteur des cultissimes Appleseed et Ghost in the Shell, aussi bien sur le plan graphique, scientifique et politique, ce que l'on voit immédiatement en consultant le sourcebook à la fin de l'album. Qui plus est, un des thèmes est emprunté à une BD chroniquée récemment, le complexe du chimpanzé sur les défaillances de l'espace-temps et le secret du programme militaire soviétique. Sauf que mis à part une très forte inspiration de shonen pour ados, l'histoire se tient, l'univers a une cohérence forte et la série finalement a une originalité propre. Fred Duval, scénariste de l'univers Carmen McCallum, propose ici une science-fiction un peu plus fantasy, moins adulte, tout en donnant un contenu très riche. La série vaut très largement son pesant de Morvan, première génération. Je pense à HK et Nomad. Quant à Philippe Ogaki, ancien de l'animation, on ne le sent plus fantasque à donner corps à cette histoire que pour Les Guerriers du Silence, adapté, il est vrai, du roman de Pierre Bordage. Frédéric Duval au scénario, Philippe Ogaki au dessin, Meteors, le premier tome s'appelle Rain Digital et vient de sortir dans la collection Série B chez Delcourt. Dans le supplément week-end sur Radio FMR. Et merci de votre écoute et de votre soutien. Et désolé du bazar depuis tout à l'heure, mais il faut dire qu'on a des déménageurs bretons qui ont décidé de décrasser la pièce du fond. Et donc, pour nos auditeurs qui n'ont pas la couleur, eh ben, on a du monde qui passe autour. Et en même temps, voilà, on s'est installé un petit peu en retard. C'est un petit peu le foutoir. Tout à fait autre chose maintenant, point de vue ambiance. Parce que pour le coup, je ne suis pas sûr que cela soit de la politique fiction. Il s'agit donc de Black Op. Le quatrième tome vient de sortir chez Dargo, toujours sur un scénario de Stephen Desberg et un dessin de Hugues Labiano. Pourquoi je dis ça ? Stephen Desberg est américain, mais Hugues Labiano est du coin, il est de Toulouse. Voilà. Cette série revient sur 60 années d'une gestion très particulière de la politique étrangère selon les États-Unis. Les fameuses opérations noires, Black Ops, de la CIA. Ils ont fortement fait travailler du ciboulot tous les spécialistes du complot. Des complots. Et pour cause. Ces opérations archi-secrètes n'auraient jamais eu l'aval du Congrès et finalement leur révélation aurait eu de quoi faire sauter plusieurs présidents. Par le biais de flashback, sur sa carrière qu'il aurait bien du mal à coucher sur son CV sans se faire flinguer dans l'instant, Floyd Whitman essaie de démêler ce qui a pu déraper dans la plus importante mission de sa vie, faire s'effondrer l'URSS. L'idée qu'il a eue de remonter une mafia russe a trop bien marché. Car effectivement, l'Union soviétique s'est effondrée de l'intérieur. Mais le problème, c'est que la mafia semble s'être emparée aussi des États-Unis. Au point d'avoir tout fait pour truquer les résultats des précédentes élections présidentielles, c'est pas un hasard si un ancien de la CIA qui a bossé sur le même projet que Floyd est devenu vice-président. Est-ce que cela aurait à voir avec la disparition de fonds secrets ou que des anciens tueurs du KGB rentrent clandestinement sur le territoire ? Floyd Whitman est dans la dernière mission de sa vie. Nettoyer les États-Unis de la mafia russe, mais il est peut-être trop tard. Oubliez le grandiloquent des séries James Bondiennes. Pas de gadgets, pas d'organisation criminelle sortie d'on ne sait où. Juste des rencontres aux quatre coins du monde. Une haine aveugle. Des manipulations et des comptes bancaires trop bien approvisionnés. Stephen Desberg est un scénariste américain de bande dessinée franco-belge. Il aime égratigner les grandes administrations de son pays. Je pense à IRS, notamment à propos du fisc américain. Pour cette série réaliste, il fait appel à Hugues Labiano, dessinateur de Matador, mais surtout de Dixie Road, une certaine vision de la Grande Dépression, qui se montre étonnamment à l'aise dans une ambiance aussi noire où les coups peuvent venir de n'importe où. Stephen Desberg au scénario, Hugues Labiano au dessin. Black Op, le tome 4, vient de sortir chez Dargo et Hugues Labiano sera en dédicace à album vendredi 20 juin. Dans la mythologie américaine, il y a les comics de super-héros et les grands allumés. Et moi, ça me fait beaucoup rire quand tu m'as dit que tu avais parlé d'un ancien dieu viking parce qu'il apparaît dans une excellente nouvelle, American Gods, de Neil Gaiman. Il s'agit de Thor, bien sûr. Ah. Du sport, j'essaie de te faire une transition en or.
Ah oui, car en plus, sais-tu que au départ, la nouvelle série Thor dont je vais parler... Eh bien, devait être scénarisé par Neil Gaiman, qui s'en était déjà occupé d'ailleurs, à l'intérieur de l'univers Marvel, mais ça remonte quand même à pas mal d'années. Thor, eh bien, c'est le dieu de tonnerre, comme vous le savez, c'est également le dieu de la foudre, et dans la mythologie nordique originelle, c'est le fils d'Odin, bien sûr, lui-même fils de Jord, l'incarnation de la Terre. Thor, c'est l'époux de Sif, Et le père de Maudit, qui signifie la fureur, et de Trude, qui signifie la vigueur. C'est également le père de Magni, parce que bon, hein, c'est tort, hein, t'as vu la gueule qu'il a, écoute, quand même, il va se contenter d'une seule nana. Faut pas déconner, quoi. Et c'est donc, c'est également le père de Magni, qui signifie la force, avec la géante Jamsana. Mais attention, hein, il y a une, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a, beaucoup de différences entre les humains, les dieux et les géants. C'est des espèces à part, on va dire, hein, dans la mythologie nordique. Alors, bien sûr, il est surpuissant, c'est le plus fort, hein, de toute façon, c'est le plus fort de tous les dieux. Sa ceinture, magique, augmente sa force, c'est-à-dire que plus il la serre, plus il devient puissant, et il a son fameux marteau, qui s'appelle...
Mjolnir,
hein, qui d'ailleurs a été... Le nom Mjolnir a été simplifié dans la mythologie Thor Marvel, c'est-à-dire c'est pas exactement la même orthographe, hein, que dans la mythologie nordique. Son marteau, donc, il a été fabriqué par deux nains qui s'appellent Eitri et Brok, sous les ordres de Loki. Loki qui est le demi-frère d'Odin, de Thor, mais qui est également un de ses meilleurs ennemis, on va dire, hein, parce que bon, chaque fois qu'il arrive des merdes au niveau des combats,
on va pas spoiler ce qui va se passer au moment de l'apocalypse. Hein.
Non, mais bon, c'est vraiment un emmerdeur fini, quoi, hein, Loki. Alors le marteau de Thor, il revient toujours dans sa main après qu'il ait frappé, et pour manipuler son manche qui est brûlant, hein, il est toujours en flamme et tout, il utilise un gant de fer. Ça, c'est toujours dans la mythologie nordique. Il traverse le ciel à l'aide de son char tiré par deux boucs magiques nommés Tanngyost, qui signifie dent grinçante, et Tanngrisnir, qui signifie dent étincelante. C'est donc le plus fort des hommes et des dieux. C'est le défenseur du Midgard, parce qu'il y a trois niveaux dans la mythologie nordique. Midgard, Asgard. Asgard, c'est les dieux. Midgard, c'est la terre. Un troisième dont je me souviens pas de nom.
C'est le
Nordgard, il me semble.
Et des morts, il me
semble. Non, parce que après, tu as également le paradis du Valhalla. Enfin bon, on va pas rentrer dans ces détails.
Oh, hein. Ça, c'est seulement pour les guerriers valeureux.
Attends. Voilà. Donc, défenseur du Midgard, des gardiens des dieux et des hommes contre les géants. Alors, il faut savoir qu'en danois, en norvégien, en suédois, Torsdag, c'est jeudi, et ça a donné Thursday en anglais, et Thunder, qui veut dire le tonnerre, est également dérivé de Thor. Ouais, voilà. Passons un petit peu à la mythologie
marvelienne. C'est cool, on apprend plein de trucs.
C'est pas que des trucs de geek, quoi. Faut aussi être un peu sérieux, quand même. Ça a été créé, donc, en ce qui concerne Marvel, en 62, par...
Stanley.
Bah oui, bien sûr,
oui,
Stanley.
Bon, quand tu sais pas, tu dis Stanley.
Voilà, tout à fait. Et Jack Kirby, le premier épisode apparaît dans Journey into Mystery numéro 83. C'est un fondateur des Vengeurs. Alors je rappelle, on avait déjà fait le petit quiz il y a une quinzaine de jours et trois semaines, les Vengeurs originaux. Il y a Hulk dedans, mais Hulk, il se fait bananer parce qu'il n'arrive pas à se tenir. Et donc il se fait remplacer par Thor. Alors, son équivalent humain, il a un équivalent humain comme pratiquement tous les super-héros. Wolverine, c'est...
Logan.
Voilà, pour citer inconnu comme ça, ceux qui nous écoutent, ils sont pas paumés. Son équivalent humain, au départ, c'est Donald Blake, hein, qui est un médecin talentueux mais infirme. Mais par la suite, eh ben, d'autres scénaristes l'ont appelé différemment, ont préféré... prendre un équivalent humain différent parce qu'il était arrivé certaines histoires à Donald Blake qui empêchaient de le faire revenir immédiatement, on va dire. Il s'est également appelé Sigurd Jarson, Eric Masterton et Jack Olson. Il a été successivement dessiné par...
Avec des trémas et des hauts barrés.
Non, même pas. Alors, quand c'est hauts barrés, il faut se prononcer A, en fait. Hein.
D'accord.
Voilà. John Buscema, donc, l'a dessiné également, avec Jerry Conway au scénario. Jerry Conway est quand même vachement connu parce qu'il a également œuvré sur Spider-Man. C'est lui qu'on retrouve d'ailleurs maintenant, il est producteur de télé et c'est un des nombreux coproducteurs de la série New York District. Vous pouvez le voir, hein, si vous regardez.
Ah oui,
hein, comme Jeff Love, hein, c'est pareil, hein, ce sont des mecs, ils sont casés, hein, y a pas de problème. Tout d'abord donc John Buscema, bon après l'épisode Kirby et Stanley bien sûr, ensuite il y a eu Rich Buckler, toujours au dessin avec Len Wein au scénario. Wild Simonson, c'est lui qui a vraiment reboosté Thor dans les années 80, vers 82, 83, jusqu'à la fin des années 80. C'est lui qui l'a reboosté parce que bon, la série Thor, le magazine Thor, commençait à perdre un petit peu de lectorat. Et avec Roy Thomas au scénario, Keith Pollard également. Plus récemment, donc, il y a une relance du titre en 1999 qui a correspondu bien à la relance, à la renouveau, on va dire, de Thor avec Dan Jurgens au scénario et surtout au niveau des dessinateurs, John Romita Jr., Andy Kubert, Tom Raney, Stuart Timonen. Laisse tomber, c'est pas la peine, ça roule. Pourquoi Thor ? Eh bien, tout simplement parce que dans le numéro 7 de Marvel Heroes, alors nous on a toujours du décalage avec les ricains, je vais arrêter de le dire parce que bon, ça paraît évident. Eh bien, dans le nouveau Marvel Heroes, eh bien, apparaît la toute nouvelle histoire de Thor, dessinée par un Français que tu dois connaître, Olivier Coipel,
oui.
S'il vous plaît.
J'ai une dédicace de lui d'ailleurs.
Yes. Et surtout, ben scénarisé par John Michael Straczynski. Straczynski qui est également scénariste depuis maintenant près de 7 ans sur Spider-Man. Il vient de délaisser Spider-Man aux États-Unis pour se mettre à Thor. Et ce qui fait que nous, ce qui fait que nous, pour l'instant, quand on achète Spider-Man, toujours chez Panini, eh bien, on continue à avoir les histoires de Straczynski. Ça va bientôt s'arrêter. Et là, bien dans Marvel Heroes, hein, qui vraiment est au plus près, on va dire, hein, au niveau délai de publication en français, parce qu'il y a environ le Thor américain est sorti en septembre de l'année dernière. Hein, donc bon, ça fait 6-7 mois, quoi. Ça va. C'est pas encore trop long. Eh bien, on a droit à Straczynski qui nous fait Thor. Et là, c'est le retour de Thor. Alors, dans un préambule qui est absolument magnifique. Hein. Moi, j'aime bien le dessin de Coipel. Franchement, franchement, c'est vraiment très très bien. Et donc, eh bien, l'histoire commence avec Thor qui est dans le monde du néant, hein, qui en a marre, il veut plus rien faire et tout. J'en ai soupé des dieux, des hommes et tout. Foutez-moi la paix et tout. Et son alter ego humain. Donald Blake vient donc lui dire un petit peu lui dire de revenir quoi, lui dire que bon bah il peut avoir ma mise sur sa destinée et tout quoi.
Ouais, arrête de regarder la télé, bouge-toi les.
Ouais là là, mais il déclare ce n'est pas aux dieux de décider de l'existence de l'homme, c'est à l'homme de décider de l'existence des dieux. Ouais. Et donc Thor il va d'abord régler son compte avec les créatures de l'au-delà qui venaient le faire chier alors que lui il était tranquille et qui voulait récupérer son marteau. Je voulais juste récupérer mon marteau et puis il y a plein de bestioles qui viennent alors non, faut quand même pas déconner. Et donc début de l'histoire avec l'arrivée de Donald Blake dans un petit patelin perdu au fin fond de la cambrousse américaine en Oklahoma sur la route
66.
Bien sûr, bien évidemment. Et ça laisse augurer des suites qui ont l'air assez intéressantes, hein, parce que bon ben ça pète bien de toute façon. Moi j'aime bien ce dessin. L'histoire part sur des chapeaux de roue, donc on va suivre ça avec attention. Dans le même numéro de Marvel Heroes, eh bien on a également Hulk, bien sûr. Alors Hulk, dans les publications Marvel, de toute façon, vous avez droit, quel que soit le titre. Là, non, Marvel Heroes, c'est World War Hulk, bien sûr, mais qui s'invite également chez les Astonishing X-Men, où il vient foutre le dawa. Il vient également foutre le dawa dans les autres séries des Astonishing X-Men, à savoir les New Excalibur, c'est-à-dire en Angleterre. Il vient également foutre le dawa chez le Gamma Corps, qui est une petite série dérivée avec des super-héros qui au départ étaient des super-vilains, mais qui ont plus ou moins eu un retour de conscience, on va dire, et qui sont mis plus au service de la bonne morale, on va dire. Et Hulk là vient foutre le bordel. Alors rappel des fêtes quand même, hein. Pourquoi Hulk de retour? Parce que il avait été exilé par Reed Richards à la suite parce qu'il était incontrôlable comme d'habitude. On l'avait exilé sur une autre planète et tout, mais malheureusement lui il était tranquille, il avait trouvé sa femme et tout, la reine de cette planète, Kyra, et il avait même eu des enfants avec. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les Terriens arrivent quand même et arrivent à faire péter une bombe qui tue environ 1 million d'habitants de cette planète. En fait, tous les personnages femelles de cette planète, et donc de ce fait sur cette planète le reste des habitants se disent bon ben voilà, on a plus de femelles, donc on va plus pouvoir se reproduire, notre race va crever, va s'éteindre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va se venger, on va aider Hulk à revenir sur Terre et pour se venger. Et de ce fait, eh bien Hulk c'est la grosse le gros retour dans pratiquement toutes les séries. Même Spider-Man y a droit, hein, mais ça on le verra un peu plus tard.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Hulk va sur la planète extraterrestre, il ne peut plus se retransformer en Bruce Banner.
Non,
il n'est que sous sa forme Hulk. En fait.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que là, c'est fini de l'alter ego Hulk Bruce Banner. Là, on a uniquement Hulk qui veut péter la gueule à tout le monde. Il veut pas péter la gueule à tout le monde. Il veut péter la gueule à ceux qui sont responsables de son exil et du supposé carnage qui a été commis sur sa planète, à savoir Reed Richards, bien sûr. Il y a Tony Stark, bien sûr. Doctor Strange et le quatrième dont je me souviens pas, mais bon, qui est également un super-héros majeur.
Attends. Ah, punaise.
Ah, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ce sera au lecteur hein, de découvrir eh bien qui est ce quatrième personnage. De toute façon, et c'est vraiment très très bien hein, parce que on arrive à pouvoir lire ces séries qui n'ont rien en commun sinon bah le fait d'appartenir à la galaxie Marvel et de temps en temps de par le passé de s'être interpénétré on va dire pour quelques histoires, eh bien Hulk arrive à foutre le bordel dans toutes ces séries hein, mais sans que pour l'instant il y ait un rapport entre les différentes séries, entre les différents groupes de personnages, entre les Astonishing X-Men entre et tous les autres. Bref, pour l'instant, ça tient vraiment bien la route. Quoique je déplore quand même justement le fait que Hulk ne soit montré que sous son côté vraiment vraiment heavy quoi et qui n'est pas de pendant, on va dire hein, à la fureur de Hulk, mais sinon bon, ça reste d'un très 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 haut niveau. Maintenant, vite fait, dans un registre tout à fait différent, je vous parlais de Spider-Man juste avant dessiné, donc
on se fait flinguer par Régie Pub.
Scénarisé par Straczynski, le numéro 100 de Spider-Man, la revue est sorti et disponible en plus en 3 couvertures différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus quand vous achetez le magazine au même prix, eh bien, vous avez un portfolio dessiné par Joe Quesada, car dans ce Spider-Man numéro 100, eh bien, c'est l'histoire en 2 parties. Alors déjà, au début, c'est la fin de, c'est la dernière histoire racontée dans la saga Back in Black, que vous avez pu suivre dans Spider-Man depuis pas mal d'épisodes, hein, scénarisé par Roberto Aguirre Sagasa et surtout dessiné, peint par Clayton Crane, hein, c'est vraiment un truc très très fin, quoi.
C'est vrai que c'est très très belle couvre.
Ah ouais, non mais c'est ça pète, hein, vraiment.
On dirait la BD française, c'est ça qui est étonnant.
Tu vois, c'est
comment c'est il s'appelle celui qui faisait Jérémien excuse-moi, j'ai oublié de te mettre.
Herman, tout simplement.
Oui, ça me fait penser à Herman, je sais pas.
Bonjour
pourquoi.
JB.
Bonjour JB.
Voilà, donc dans la dernière histoire de Back in Black et tout, en fait, c'est Peter Parker qui revient un petit peu sur son passé. Et la retraite hein, du tisseur de toile en fait hein, puisque la dernière image et tout on le voit assis devant la télé dans son canapé avec sa femme et ses deux enfants tranquille, les cheveux gris, les lunettes et tout, enfin bon, la totale. Par contre, après eh bien la double histoire Un jour de plus, One More Day Part 1 Part 2, alors là c'est vraiment terrible hein. Là c'est scénarisé par Straczynski et dessiné par le rédac chef lui-même de Marvel, à savoir Joe Quesada. Et là, ça banane sec. Pourquoi ? Ben, ça raconte bien ce qui va se passer et ce que va faire Peter Parker après que Tante May se soit fait descendre par un sniper. La balle était bien entendu destinée à Peter Parker, autrement dit Spider-Man. Et là, Peter Parker, il est pas content du tout. Et donc, ce qui fait que bon, il va un petit peu se friter avec Tony Stark, enfin Iron Man, dans la première partie et dans la deuxième partie, il va se friter avec d'autres créatures qui sont nettement plus glauque, on va dire. La première partie est encore assez légère, quoique relativement sombre. La deuxième partie est franchement très, 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 très sombre. Et c'est que du bonheur, quoi, de toute façon. Tout ça donc dans le Spider-Man numéro 100. J'avais oublié. Si, non, c'est bon, je vous ai fait la, la totale, hein, il me semble.
Bon, bah, coupure pub alors, parce que là, il est midi et pratiquement 40 minutes, et je te dis pas comme ils sont un petit peu énervés. C'est beau Windows. Vous lui mettez un, vous lui mettez les tracks.
Moi, j'irai l'informatique.
Et il arrive plus à les lire. Non, il arrive plus à les lire. Alors qu'on les a, je les ai entendus en pré-écoute. Il y avait aucun souci. Là, maintenant, non, il veut plus. D'accord.
Oh, on le sent, il est déçu là.
Oh, à peine. Allez, hop. Spécial mai 68. On revient aux bases de la musique électronique et des Pères Noël à forte poitrine velue.
Denis Roussos.
Oui, et
Aphrodite Childs.
Oui,
c'est marqué. Hein, c'est marqué sur le conducteur.
Oh merde.
Et l'autre musicien vachement connu dans Aphrodite Childs, au clavier, Vangelis. La rubrique de Cannes est présentée par Thomas Dobby Mono Serand.
Oui, car aujourd'hui, dans cette rubrique cinéma, il ne sera absolument pas question du Festival de Cannes.
Ouais.
Oh non! Putain, non, mais j'avais tout calé, les jingles et tout, des sponsors.
Ah bah dommage, on en parlera pour le palmarès la semaine prochaine, ou pas.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, nous avons une suite de petites news concernant le cinéma, et je crois bien que nous en avons 5. Et qui dit 5 dit top, et qui dit top dit...
quand ça veut.
Le top 5.
On va y arriver.
Numéro 3. Numéro 5.
C'est mieux. Oula.
Si tu veux, je te le fais en direct.
Alors, ça c'est pour les geeks gamers de la première époque, en fait, puisque ça concerne Prince of Persia, qui va être adapté au cinéma, réalisé par Mike Newell, 4 mariages et un enterrement, Donnie Brasco, Harry Potter 4, avec Jake Gyllenhaal dedans dans le rôle du...
Gyllenhaal,
comment tu dis? Gyllenhaal.
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 Non, ça serait Gyllenhaal, ouais.
D'accord. Produit par Jerry Bruckheimer. Et le film suivra les aventures d'un jeune prince perse, Dastan, qui devra joindre ses forces à la princesse Tamina pour contrer les sombres plans d'un despote qui détient les sables du temps, un cadeau divin qui lui permettrait de remonter le cours du temps et de contrôler le monde.
Ah oui, d'accord, donc c'est sur la franchise du tout dernier, quoi. Ouais,
tout à fait. D'ailleurs, c'est scénarisé par le scénariste principal du jeu vidéo.
Super. Ah, ça c'est un gage de qualité, en principe.
No comment.
Top 5.
Et non. Putain, non mais il est pas calé, voilà.
Ah, c'est mieux. Alors, tu parlais de comics tout à l'heure et de Thor. Eh bien, il est encore question de Thor au cinéma. Un film. Alors, il y a le film Thor qui est en préparation. Un film. Attends, ne regarde pas mes notes, toi. Un film qui se passerait principalement à Asgard. Qui ne serait pas un film contemporain, qui se déroulerait donc dans le passé. Donc ça peut être pas mal avec l'ambiance vraiment nordique et tout. On a eu un désistement du réalisateur temps pressenti qui était Matthew Vaughn, qui était réalisateur de Stardust. Alors on sait pas encore son remplaçant. En tout cas, ce qui fait chaud au cœur, c'est qu'il y aura une adaptation cinéma de Thor.
Qui l'acteur pressenti? J'avais entendu dire que ça devait être peut-être Brad Pitt.
Je ne sais pas, je n'ai pas eu vent de cette rumeur.
Va lui casser sa chronique, oui.
Non,
deux balles.
Mais
non,
c'est pas du tout. C'est pas du tout pour le casser. C'est une info qui a circulé. Tout simplement.
Attends, ils ont pris un James Bond blond. Ils vont pas prendre pour un Viking un blond. Ils vont prendre un roux.
Remarque, ça peut être pas
mal. Ils ont déjà pris Antonio Banderas. Hein, je rappelle.
Mais il faut justifier le budget maquillage et tout, quoi. Donc on peut très bien prendre un brun. Il y a pas de problème.
Et parallèlement à l'adaptation de Thor, il y a aussi l'adaptation de Captain America avec dans le rôle de Cap Matthew McConaughey.
Ouais.
Alors, d'après le net, Matthew McConaughey était pressenti, mais il y a eu une telle pétition contre l'acteur.
Non.
Finalement, ce sera pas lui. Et le réalisateur qui est toujours associé au projet, c'est Nick Cassavetes.
Oh non.
Ou Cassavetes, je sais pas.
Cassavetes.
Cassavetes. Ouais. Bon voilà, on sait pas ce que ça va donner. Film également qui se déroule aussi dans le passé, qui remonterait donc aux origines de Cap pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à noter concernant Captain America que dans le film Iron Man, qui est sorti récemment, on aperçoit subrepticement sur un atelier de Tony Stark à un moment donné, c'est une image qui a été révélée aussi sur internet, on voit le bouclier de Captain America qui est à l'étude sous des lampes et tout. Alors je te dis,
c'est pour ça qu'il a buté l'enculé.
Stark, il aurait récupéré le bouclier pour l'étudier. D'accord. Bah ça, c'est pas mal, ça pose les bases de futures franchises.
Mais si je me souviens bien, il y a déjà eu un vieux film sur Captain
oui,
America.
Oui,
deux téléfilms.
Des téléfilms.
C'était des téléfilms et en France, le deuxième est sorti comme film et il y a eu une exploitation au cinéma en France.
Bravo.
Plus de renseignements dans Nanarland.
Nous ne faisons pas de la publicité. Suite.
Ouais.
Numéro 3.
Bien. Alors là, j'ai pas les images, mais je veux pas que vous ayez une crise cardiaque. Alors moi, franchement, je suis un peu dégoûté. Manu ne me contredira pas de toute façon. Ça concerne Dragon Ball, hélas.
Ouais.
J'étais pris par le temps. J'aurais dû amener les images en fait, puisqu'on a vu les images diffusées sur le net. Les images qui viennent au compte-gouttes sont à chaque fois plus pitoyables. Donc on a un Sangoku. Oui.
Laisse-moi deviner, c'est réalisé par UV Ball.
Non. Mais qui est quand même le champion des adaptations de jeux vidéo, effectivement. Bon, là, c'est évidemment l'adaptation du manga à succès de Akira Toriyama. Donc, on a un Sangoku qui ressemble un peu à un pauvre Jones
en jean échappé de Vivendop qui serait croisé avec un héros de la série Arte Cœur à Vif. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série australienne.
Excellente demeurant.
Voilà.
Oh non,
avec chemise à carreaux et tout. On a dans le rôle de Tortue Géniale Chow Yun-fat qui vraiment fait pitié après son rôle après son rôle anémique dans Pirates des Caraïbes 3. Alors là franchement il fait encore plus pitié puisque il a pas de carapace, il a pas de barbe blanche, il a pas de lunettes de soleil, il est pas chauve.
Je peux vous assurer que ça fait vraiment très très mal à Thomas connaissant l'engouement qu'il y a envers cet acteur.
Oui voilà. On a également
il est pas le seul hein.
On a également Yamcha. Alors là on dirait qu'il est échappé de Fast and Furious Tokyo Drift. C'est un japonais aux cheveux longs peroxydés blonds. Alors tu dis mais quel rapport avec Yamcha? Bon c'est... voilà. On attend toujours James Masters en piccolo. Alors on n'a pas encore les images. Alors c'est le truc, c'est le truc si soit peut achever le projet, soit le transformer en nanar pur jus. Ben franchement il est bien parti pour ou le lui donner un quelconque intérêt. En tout cas pour en avoir discuté avec un ami, il m'a dit vu les images, même en DivX je ne le voudrais pas. Dédicace, à... dédicace à Xilfo si nous écoute. Donc en tout cas ce sont des photos qui font très très mal.
On d'accord, enchaîne. J'ai peur.
Numéro 2.
Non, non, c'est loupé.
Moi, c'est alors, numéro 2, au cours d'une interview non, récente...
Je vais faire les boucles à chaque fois parce qu'il fait les news trop longues.
Je suis désolé.
Au cours d'une interview récente, Alain Berberian, le réalisateur de La Cité de la Peur, Paparazzi, L'Enquête Corse, bon, c'est quand même des films qui se laissent regarder, a déclaré vouloir réaliser une biopic sur... Oui. Et vous allez devoir deviner qui c'est, sachant que c'est Guillaume Canet qui l'interprétera.
Donc c'est un garçon.
C'est la biopic d'un gars mort, né en Russie. Il arrive en France avec sa famille fuyant le communisme à l'âge de 6 ans.
Nicolas Sarkozy.
Non. Il effectue d'abord des études scientifiques, mais sa parfaite maîtrise du russe, du français, de l'anglais et de l'allemand lui ouvre en 1948 les portes de la radiodiffusion française au service des émissions vers l'étranger.
Léon Zitron.
Bravo.
Oh punaise.
Donc Guillaume Canet dans le rôle de Léon Zitron.
Toute son enfance. Oh punaise. Ouh là là là, ça fait peur. Guigui, je ne vous entends plus.
Sur un scénario de Romain Goupil. Alors on attend.
Oh non.
C'est très très bon.
J'approuve totalement. Ça, j'ai peur là. Je pense mais qu'on non. va passer qu'est-ce qu'il y a de mauvais au top du plus top.
Numéro 1.
Alors là, c'est une news qui se suffit à elle-même, pas la peine de rajouter. Il est prévu de faire un remake d'Highlander. Ouais. Donc là...
Ouais, respect.
Donc là, on dit rien, on rit, c'est tout.
Trois points d'intention.
Attends. Nota bene, parce qu'on a toujours pas vu le dessin animé. Donc le 1 et le 6 sont pas mauvais.
De quoi le 1 et le 6? Le 6, il est pas mauvais, tu te fous de moi?
Non, je te parle pas du 5. Attends, on a le spécialiste devant l'éternel.
Oui, je crois que Xavier est en fait en train de parler du dessin animé, non? Pour en parlant du 6.
Oui, tout à fait.
Oui, enfin, c'est pas vraiment le 6, mais bon, c'est vrai que ça confirme la théorie parallèle, comme quoi il y aurait, donc, le premier film qui est bien, le deuxième qui est une sombre merde, le troisième qui est un téléfilm pas bien, le quatrième qui est pareil, un téléfilm pas bien. Non, la sombre merde, c'est le 5. Qui est même presque pire que le 2,
hein. Attends, malgré les remontages.
Le source, c'est le 6.
Non,
c'est le 5.
Ah, respect, honte au 5.
Ah oui. Oui,
parce que. Non, je suis désolé, JB, on connaît le sujet dans cette émission.
Je suis d'accord. Parce
que on a recruté les meilleurs spécialistes.
Je vous rappelle que c'est vous qui m'avez conseillé de regarder le source.
Oui.
Je vous en remercie infiniment.
Désolé.
Ah bon, comment? Toi aussi, tu as acheté le DVD en Russie.
Non, ce qui est clair, c'est que c'est vrai que des immortels en épée dans une forêt pour chasser par des cannibales, c'est vrai que ça fait très dans l'esprit la franchise.
T'as vu quelle version? La version russe ou le Damage Limitation Cut?
Voilà, c'est tout.
Et tu ne parles pas de Ken le survivant?
La légende de Rao?
Non.
Alors vas-y.
Mais j'en sais rien, moi.
C'est du dessin animé?
Oui.
Alors le dessin animé, le long métrage animé va arriver dans nos contrées bientôt. Moi je serai en déplacement au Festival d'Annecy au début juin. Alors pour l'instant les places sont toutes prises. Il y aura des nouvelles places qui seront libérées le 8 juin. Donc dès 1h du matin je vais être là pour essayer de réserver ma place pour La Légende de Rao et pour un autre film qui est attendu par quelqu'un ici qui s'appelle Evangelion. Voilà. Bon.
D'accord.
On essaiera de vous ramener des avis.
Ah oui, c'est comme ça, bon. Alors je crois que dans ce cas-là, il est temps de lancer
The Lois of the Serral, ça.
Oui, mais je m'y perds.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. Oui, du sein.
Ouais, bon, bah, ok. Non, non, j'avais prévu un bouquin d'abord, mais bon.
D'accord.
Avec la musique qui va avec, là.
Ah, tu t'es.
Celui-là ?
Ouais, ouais. Voilà. Alors, tu mets le titre, le même titre. Tu vois, là. D'accord ?
Je sais pas lire, Duce. C'est pour ça que je chronique des BD.
Ah, tu c'est sais. La, en haut sur la gauche, je crois. Sur la droite.
N'essaie pas de m'embrouiller. Voilà. N'essaie pas de m'embrouiller.
Non, on va changer un peu de mood. On va être un peu plus funky, quoi.
Yo.
Yo.
All aboard.
Yes.
The Night Train.
Woo.
Yes. Pour vous parler d'abord d'un livre. Un livre avec pas d'image dedans. Si ce n'est celle de la couverture, qui est une photo retravaillée, hein, tout simplement. Ce bouquin s'appelle Night Train, comme le morceau de James Brown qu'on écoute en ce moment, qui date de, oh là, pas de 68, mais d'avant. Hein, c'est le James Brown qui travaillait vachement à l'époque. Encore un nictoche, mais vous savez que moi je suis un inconditionnel de ce chroniqueur biopic, biographe et également critique musical. Nick Tosh, ça s'appelle Night Train, donc, et ça raconte la vie d'un boxeur qui s'appelait, il est mort, Sonny Liston. Sonny Liston, champion du monde des poids lourds en 1962. Battu par qui? Par un certain Cassius Marcellus Clay. Et ça raconte donc sa vie. Alors comme d'habitude chez Nick Tosh, c'est hyper documenté. Le mec, il a dû faire des tonnes d'archives et tout. Parce que il remonte et pourtant Liston c'est un black, donc il faut savoir qu'aux États-Unis les listes d'état civil ça n'existe pas avant les années 20. On ne tenait pas les registres de naissance que dalle, donc on peut rien savoir hein, de quand sont nés, quand sont morts les différents personnages. A fortiori quand il s'agit de black, parce que ils ont commencé à ne plus être esclaves en 1865. Hein.
Ils ont été affranchis dans les États du Sud en 65.
Affranchis, voilà, c'est ça. Et donc, lui, il arrive à remonter jusqu'à cette période-là, quoi, pour situer quels sont les arrière-grands-parents de Sonny Liston, Charles L. Liston. Alors, son histoire est très simple. Hein, c'est l'enfant d'une famille nombreuse et tout. Son père a pas arrêté de lui taper sur la gueule. Il n'est jamais allé à l'école ou sinon pour se faire bouler par ses petits copains, parce que justement, il était vachement plus grand que tout le monde pour son âge. Hein, à l'âge adulte, c'est quand même le type qui fait un peu plus de 2 mètres pour environ 100-105 kilos, c'est-à-dire le gabarit normal pour un poids lourd.
Oui, hein, beau bébé.
Hein, beau bébé. Sa carrière commence bien entendu par les gardes à vue, les passages à tabac chez les flics pour des petites grivelleries d'usage, maison de correction et la prison bien entendu dès l'âge de 15 ans où il découvre un sport tout à fait nouveau pour lui, la boxe. Et sorti de prison, il commence à faire carrière chez les amateurs, il remporte le concours des Golden Globes, qui est la plus haute récompense, on va dire, en ce qui concerne la boxe amateur aux États-Unis. Enfin, à l'époque, il y avait également les Golden Globes qui concernaient les meilleurs Européens qui pouvaient participer à cette compétition. Et ensuite, ça raconte son histoire de boxeur professionnel, son accession au titre mondial, un titre mondial qu'il acquiert face à Floyd Patterson. Floyd Patterson qui, après, a essayé de récupérer ce titre, mais s'est fait de nouveau bouler par Cassius Marcellus Clay, Mohamed Ali pour les plus jeunes, qui connaissaient pas le nom d'esclave de Mohamed Ali. C'est également l'histoire de l'accession de Sonny Liston, aidé, on va dire, par les puissances occultes de l'Amérique, à savoir ceux qu'on ne nommait pas The Mob, la mafia. Tout d'abord la mafia de Saint-Louis, puis la mafia de Chicago, un petit peu la mafia de Los Angeles, bien entendu. Et ça nous raconte un petit peu toute l'histoire, tout ce qui s'est vraiment passé dans la boxe, dans les années 30, dans les années 40 et dans les années 50. Et il y a quand même une révélation qui est assez surprenante dans ce bouquin. C'est-à-dire que faut savoir qu'au cinéma, hein, on en parlait la semaine dernière, les meilleurs films de sport, c'est quand même les films de boxe, hein, y a pas à péter, hein, c'est ceux qui sont les mieux rendus et c'est ceux qui ont le plus marqué, hein, Raging Bull, enfin on a cité plein, hein, la semaine dernière, mais bon, pour ne citer que les meilleurs. Et il faut dire que dans ce livre, ce sont des témoignages de personnes qui ont vraiment vécu que Nick Tosh et qui étaient dans le bain, hein, on va dire, soit des boxeurs, soit des managers, soit des flics, hein, qui ont arrêté Sonny Liston ou qui étaient plus ou moins plus haut placés. Il y a eu moins de combats truqués qu'on ne l'imagine. Ils donnent une fourchette. Ils disent que pour 1000 combats professionnels de boxe, eh bien, il y avait à peu près 3 à 4 combats truqués seulement.
Ça a changé grâce à la WWF.
On tombe quand même un petit peu sur le cul. Enfin bon, c'est quand même la vraie vérité. On apprend également que des boxeurs célèbres, bah, se sont couchés comme ça parce que bon, bah, c'était mieux pour leur carrière. Jake LaMotta est l'exemple le plus connu. Rocky Marciano également, hein, s'est couché pour certains combats parce que ça allait lui rapporter bien le fait de pouvoir justement aller plus loin la prochaine fois et de pouvoir essayer de conquérir un titre mondial. Et ça raconte également la fin de la carrière de Liston, sa mort dans les années 70. On ne sait toujours pas comment il est mort, hein. C'est sa femme qui était partie rendre visite à sa sœur, qui une semaine plus tard revient et le trouve mort. Il était mort, couché dans son canapé en sous-vêtements, mort depuis une semaine. Donc ça commençait sérieusement à schlinguer. L'autopsie n'a vraiment rien révélé. On savait qu'il avait bien picolé. On a raconté qu'il commençait à se défoncer, qu'il fumait de la ganja, qu'il se shootait à l'héro et tout. Ça n'a jamais été vérifié. Bref, il y a toute une partie de la vie de Sonny Liston qui reste un vrai mystère. Et malgré l'enquête très très fouillée, hein, et très très sérieuse de Nick Tosh, mais il reste quand même une certaine part d'ombre et tout. On voyage également dans les années 50 et 60 à travers les différentes commissions anti-mafia, commissions anti-macartisme.
La mafia n'existe pas. Les papiers du FBI à ce sujet.
Mais qui tournait à fond les manettes. C'est vraiment très très beau. Je vais vous citer juste un passage concernant Cassius Clay. Clay n'était pas un enfant acteur, mais quelque chose de plus bizarre encore. Un enfant boxeur qui avait consacré sa vie à la boxe dès l'âge de 12 ans. Depuis lors, des Golden Gloves, en passant par les Jeux Olympiques jusqu'à cette soirée de Vegas, il avait plus boxé que vécu et son intelligence et son expérience de la vie étaient aussi atrophiées que celles d'un acteur. Sa tournure d'esprit pénible et irritante, ses pitreries inoffensives et vaines, ainsi que son audace maniérée collaient parfaitement aux médias de l'époque. Médiocrité et médias, n'oublions pas, sont apparentés de la même racine latine. Nick Tosh, Night Train, c'est chez Rivage Noir, alors soit dans la petite collection, soit disponible en grand format, mais ça coûte plus cher. Donc à lire, c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui adorent la boxe, pour ceux qui aiment bien la boxe et qui suivent un petit peu ça, c'est un des bons bouquins qui existent sur la boxe.
h 1 minute et 46 secondes sur la poubelle atomique de l'horloge de la radio. Et on a des 3
l'heure à laquelle je bois un coup.
Voilà. Avec modération, hein, sinon ça fait péter. Attention.
Ouais, ça fait plutôt roter, tu vois. Encore qu'il n'y a pas tellement de bulles.
Et c'est sans alcool.
Alors la télé à présent avec de la série inédite, s'il vous plaît, avec tout d'abord la seule vraiment inédite, hein, ce sera sur Canal Plus Family mercredi prochain à 20h45, ça s'appelle Le Diable et Moi, et ça raconte l'histoire de Sam, interprété par Bret Harrison, qui apprend que ses parents ont jadis vendu son âme au diable. Mais mon Dieu, et donc de ce fait, il doit, aidé par ses potes Sock et Ben, capturer les démons en fuite et les remettre au diable. Alors ça rappelle un petit peu
Ghost Rider.
Ouais, ça rappelle aussi une autre série qui était vachement bien, Brimstone, avec Peter Horton, hein, où justement c'était un flic qui est descendu parce que il s'est vengé et donc il arrive chez le diable et complètement tatoué, et en fait sur ses tatouages, ben ça représente chaque fois le symbole d'un démon qu'il doit ramener au diable, interprété magnifiquement par Roger Glover, pas Danny John Glover, voilà. Oui, John Glover.
Le père de Lex Luthor.
Ouais. Lionel. Ouais. Lionel Luthor. Et donc, lui, il a 100 démons à retrouver. Puis ensuite, il sera libéré de... Enfin, bref, ça rappelle un petit peu ce truc-là. Sauf que là, le diable est interprété également par un acteur dont moi j'aime tous les rôles pratiquement. Hein. C'est un de mes acteurs cultes, comme John Glover. C'est l'immense, l'énorme Ray Wise. Rappelez-vous, Twin Peaks, Papa Palmer. Ah. Rappelez-vous, le vice-président dans 24, cinquième saison.
Ah, moi, j'arrête les de jouer avec
dans lui, Charmed. Le sénateur dans Savannah. Ah, ça, vous connaissez pas Savannah, c'est sûr. Bon, d'accord. Bon, dommage.
C'est une ancienne actrice de cul.
Ça va? Non, c'est le titre de la série. Non, pas celle qui sortait à un moment avec, pas du tout. Alors, la série marche bien. Pourquoi? Parce qu'elle joue sur deux registres. Le fantastique science-fiction un peu gore, c'est-à-dire la poursuite des démons et puis bon, leur capture. Mais également sur un humour un petit peu décalé qui a l'air de bien faire mouche à chaque fois. Hein. Ben, faut dire qu'avec Ray Wise, de toute façon, hein, on est sûr que ça va être bien interprété, qui va y aller à fond les manettes, et ça a l'air bien écrit. En tout cas, c'est Le Diable et moi, donc c'est regardable sur Canal Plus Family à partir de mercredi prochain, 20h45. Canal Plus toujours, qui nous diffuse à partir de vendredi prochain là dans la...
Putain, quand on l'aura plus gratuit, merde.
Non mais là c'est en clair, hein, c'est dans la case, le début de la case claire en fin d'après-midi à 18h20, hein, donc dans la case sitcom, on va dire c'est la deuxième saison de La Petite Mosquée dans la Prairie. Excellent à regarder, allez-y à fond les manettes, c'est vraiment très très bien, hein, l'histoire de l'intégration d'une famille, on va dire, de terroristes, hein, puisqu'ils ont des tronches de terroristes, et bon, c'est comment les ricains sont actuellement, hein, depuis...
Sauf que c'est au Canada, donc années. Ça reste soft. Hein.
Ouais, mais bon, quand même, tu vois, c'est un... mais ouais, quand même, La Petite Mosquée dans la Prairie, donc deuxième saison, c'est à partir de vendredi prochain, 18h20 sur Canal+. Et là, ils sont de retour. Ils sont de retour et toujours en prison. Ben bon, ben tant pis, hein, mais c'est pas grave. Mais ça y est, on avait eu la grève des scénaristes dont on vous avait amplement parlé.
Non, mais là j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs.
Hein. Eh ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, ça, c'est de retour jeudi prochain sur M6 à partir de 20h50. Le seul avantage, c'est que comme il y a eu la grève des scénaristes, ils n'ont pas eu le temps d'écrire l'intégralité de la saison, et donc, la chaîne a déclaré que après les 8 épisodes qu'on a déjà vus et qui ont déjà été diffusés, qui avaient été tournés avant la grève des scénaristes, ils n'en ont tourné que 5 après. Donc c'est une troisième saison qui ne fait que 13 épisodes au lieu des 22 pressentis.
Sauf que c'est condensé ou
Non, c'est-à-dire que bon, ils ont carrément changé ce qui va se passer, tout simplement, quoi. Et puis bon, on va savoir comment ils vont faire. Bon, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais enfin
oui,
là,
alors,
c'est inversé, quoi.
La petite amie de Michael, elle est morte ou non?
C'est peut-être ce qu'on va savoir dans la saison 4. C'est peut-être dans la saison 4
qu'on
va
savoir. Est-ce que c'est sa tête qui est dans le carton?
Est-ce que c'est sa tête dans le carton? C'est ça la grosse question qu'on se posera. Mais à la fin de la saison 3, parce que bon, pour l'instant, eh bien, les rôles sont inversés, hein. C'est Michael qui est au trou et c'est Link qui essaie de le faire sortir. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment original.
Mais les méthodes vont changer.
Ah ouais,
pour
là,
le faire sortir.
Ah oui, parce que bon, les méthodes internes de la prison, c'est pas les mêmes non plus, hein, de toute façon, quoi. Non plus. Donc, M6, jeudi prochain à 20h50, Prison Break. Et je vous avais parlé de cette trilogie sur Canal+, le vendredi soir, en troisième partie de soirée. On a vu la première partie porn. Donc porno en 6 épisodes, 6 minutes
hard. Non mais même ma copine en parle donc.
Ouais et là bien la deuxième série de cette trilogie qui ne fait que 3 épisodes d'ailleurs, donc il n'y aura qu'un épisode par soirée, eh bien commence vendredi prochain à partir de 22h30, ça s'appelle Doom Doom.
Oui, j'ai vu la bande annonce. Ouais.
Alors Doom Doom, c'est pas parce qu'il y a Vincent, pas du tout.
Oh non.
Oh, il fallait quand même. Faut se mettre au niveau.
C'est,
quoi.
C'est du flingage en subjectif au moins.
Ben, justement, Doom Doom, c'est le flingage quand t'as un silencieux, c'est le bruit qui fait le silence. Doom Doom. Doom Doom.
D'accord.
Voilà. Pourquoi? Ben ça raconte l'histoire de deux tueurs à gages.
C'est des noms de balles aussi. Hein.
M, qui est interprété par Michael Abiteboul, qui est tueur à gages confirmé, et qui va enseigner son art à un jeune voyou de Sarcelles qui rêve de passer pro, donc qui s'appelle V, interprété par Virgile Bramley. Et donc, bien, ça va raconter un petit peu leurs histoires, leurs déboires. On fera également la connaissance de l'agent Dreyfus, interprété par Bernard Blancan, et qui est le patron donc de M. Et il y a également dans cette distribution Mayan Marjorie qui interprète le rôle de Julia. C'est vendredi prochain à 22h30 sur Canal+. J'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, mais c'était un parti pris volontaire hein, de ne pas vous parler de série la semaine dernière. Bien mal m'en a pris, et pourtant, tant pis pour vous.
Oui, c'était sur un spécial cinéma.
Mais pourtant, hier soir, c'était le retour. Le retour sur France 2 de Sur le fil. Excellente série policière, une des meilleures séries policières tournées en France, avec Police District, on va dire, hein. Bon, faut pas oublier quand même, hein, Olivier Marchal.
Et Engrenage.
Et ce qu'il y a, et Engrenage, et ce qu'il y a de bien, c'est que là, bah, c'est pas fait avec ni produit par Olivier Marchal, hein. C'est, Catherine Pouzet et Martin Garonne qui sont à l'origine de cette série Sur le fil dont on a pu voir la saison 1. Il y a 6 mois, 7 mois sur France 2, donc toujours dans la case du vendredi soir, la case polar du vendredi soir. Hein, et là, la saison 2 vient débarquer hier soir, donc avec les deux premiers épisodes. Alors toujours des saisons très courtes, 6 épisodes par saison, mais par contre des sujets super travaillés, hein, des mises en scène vraiment bien foutues. Pas du tout la même ambiance au niveau image que Police District, qui était un petit peu plus glauque, plus sombre. Là, bien sûr, les histoires ne sont pas plus gaies, hein, c'est le quotidien de flic dans un petit commissariat. D'ailleurs, en truc récurrent, on voit le métro qui passe juste à côté, parce que le commissariat est situé juste à côté du métro aérien. Donc les mecs, même sans ouvrir les fenêtres, t'entends toutes les 2-3 minutes, quoi. Mais par contre, au niveau de l'interprétation et surtout au niveau des histoires, hein, c'est vraiment du top. Hein, moi, je suis sur le cul, je suis baba quand même. Que des Français puissent sortir des trucs comme ça, et en plus sur une chaîne publique, hein, avec donc dans le rôle de la patronne, c'est Mickey Sébastien. On a Benjamin Boyer, c'est le Benjamin Boyer qui joue le commissaire, qui est le patron de toute cette équipe. Xavier Gallet, lui, c'est l'inspecteur qui est l'obsédé sexuel. François Levental, là, respect, franchement, respect dans le rôle du flic old school qui dépote à tout va, mais qui a toujours raison pratiquement. Et là, ben, les deux premiers épisodes, alors on était resté un petit peu sur notre fin à la fin de la saison 1. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une histoire récurrente qui courait tout au long de cette saison et qui concernait le tueur qu'on surnommait le serial killer, qu'on surnommait le pianiste. Alors donc, à la fin de dernier épisode de la saison 6, on se dit, merde, ils l'ont chopé, il est là, il a avoué son crime, ses crimes dans le commissariat et tout, mais comme légalement et procéduralement il ne l'a pas fait en signant les papiers et avec la présence d'un autre flic, enfin bon, c'était pas légal et non. Donc bah, à la fin il se tire comme ça et puis on ne peut rien faire contre lui, et pourtant toute l'équipe est pratiquement persuadée, sans avoir vraiment d'indices ou de preuves concordantes, que c'est lui qui a réalisé les crimes, que c'est lui. Et donc au début de la saison 2, on va se dire c'est reparti, ils vont essayer de le choper, ça va aller très très fort, sans problème. Alors le premier épisode se passe très très bien, on en parle, c'est évoqué en filigrane, hein, c'est-à-dire que bon, il y a une histoire dans le premier épisode qui est complète, hein, c'est l'assassinat d'un indic qui faisait un petit peu chanter les hautes personnalités parce qu'il les prenait dans de fâcheuses postures, on va dire, au Bois de Boulogne, avec des femmes qui n'en sont pas vraiment. Dans le second épisode, eh ben là, c'est nouveau, le pianiste à fond les manettes et tout, et à travers l'enquête qui est menée pour résoudre un crime commis sur une jeune étudiante qui, pour arrondir ses fins de mois, se laisse aller à des joies, enfin je sais pas si des joies sadomaso et autres petites gâteries moyennant finances assez élevées, eh bien elle se rend compte que c'est le personnage qu'ils essaient de serrer en tant que pianiste dans la saison 1 qui est le patron, et donc ils arrivent à le serrer enfin, et ils trouvent des cadavres démembrés, enfin des trucs pas possibles, et ils disent ça y est, on a tiré le gros lot, bingo bingo bingo. Mais, à la fin du second épisode de hier soir, eh bien, déjà, l'une des nouvelles venues, hein, qui n'est pas là depuis le départ dans la distribution, mais qui intègre l'équipe de flics avec une jeune fliquette tout à fait charmante et tout, avec qui on se dit il va peut-être y avoir une petite histoire d'amour avec le petit jeune là qui est spécialiste de l'informatique dans la police, car ils se font des petits yeux doux comme ça entre deux petits trucs de boulot. Eh bien non, parce que vers la fin, eh bien quand elle rentre chez elle, malheureusement, eh bien on voit quelqu'un qui lui ouvre la porte pour la faire rentrer dans son immeuble, mais qui au lieu de sortir, eh bien retourne sur ses pas. Mince alors. Que va-t-il se passer la semaine prochaine, vendredi prochain ? Eh bien, on aura peut-être plus d'indications et on saura peut-être que le pianiste, en fait, n'était pas le type qui a été chopé et carré hier soir, mais peut-être un ex-flic, car il faut savoir qu'il s'appelle le pianiste parce que bon, bah, on retrouve tous les cadavres qui ont été étranglés avec une corde de piano. Voilà. Avec bien la présence de Jack Spicer hein, qui apparaît dans le deuxième épisode hier soir et qui sera également présent dans le troisième épisode qui s'appelle Le Pianiste justement la semaine prochaine. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être Anguille sous roche avec deux épisodes donc qui seront diffusés vendredi prochain à 20h55 sur le fil. Ne loupez pas ça, vraiment c'est excellent, c'est très bien. Bon je sais ça passe en même temps que Battlestar Galactica. Mais bon.
Non, mais j'ai arrêté d'essayer d'écouter ça.
C'est rediffusé.
C'est inaudible.
C'est rediffusé, Battlestar Galactica.
Ouais, non, mais surtout, c'est inaudible sur NRJ12.
Bah ouais, mais bon.
C'est honteux.
C'est rediffusé. C'est honteux. Alors que sur le fil, c'est pas rediffusé, tu vois.
En plus, il l'a récupéré sur notre support.
Voilà. Alors, vite fait des séries. Alors, avec Inspecteur Barnaby, toujours le dimanche soir. Alors, c'est toujours magnifique. C'est excellent. Oh hein, ça, c'est du très grand.
Grand, très grand.
Hein, là, en plus, on nous passe les épisodes récents. Hein, ça, c'est 2007. Demain soir, le télescope de la mort, avec une particularité que moi j'ai remarqué. Mais enfin bon, comme moi j'ai pas suivi tous les épisodes, puis que Christine, elle, c'est une fan absolue. Elle me dit que j'ai pas tout à fait raison, mais je pense que j'ai quand même raison. C'est qu'il y a dans la procédure qu'emploie l'inspecteur Barnaby dans chaque enquête, en fait, il y a un moment, eh bien. Partie des indices qui apparaît sous forme de photos. Alors bon, ça apparaît, c'est tout con, hein, c'est débile, mais enfin bon, dans la majeure partie des séries police procédurale, qu'elles soient anglaises, américaines, hein, on ne fait jamais appel aux photos, aux trucs comme ça, ce n'est jamais un élément marquant, on va dire, hein, de la résolution de l'enquête, alors que dans Barnaby, eh bien, ça y concourt pratiquement à chaque épisode. Donc, c'est juste comme ça pour remarquer. Bah si, bah, c'est très ténu, hein, de toute façon, faut être là au bon moment, clac, ah oui, mais sur cette photo, c'est pas vous, là, si, j'étais avec machin et tout, quoi, et puis, ah, bah, après, quand il a ses flashbacks à la fin, qu'il va résoudre l'enquête, ah, bah oui, là, ouais, c'est vrai, effectivement, et tout, quoi.
Enfin, inspecteur, va falloir faire un jingle, façon... merci, Christine!
donc c'est sur France 3 demain soir à 20h55, sinon, vite fait. Quand même un guest-starring intéressant dans New York Unité Spéciale sur TF1 mercredi prochain à 23h20. C'est la saison 8, donc c'est des inédits. Et là, eh bien, dans l'épisode Éternelle Adolescente, le guest, c'est Barry Bostwick, autrement dit le maire de Spin City.
Ah oui, très bien.
Et également le jeune premier de The Rocky Horror Picture Show. Ah oui, ça remonte à loin. Oui, oui, je sais. D'accord.
Ah, oh, putain, c'était lui?
Ben oui, c'est lui. C'est bien sûr que c'est lui. Oui,
chez...
ah, Gina Davis. Ah, c'est non, Suzanne Sarandon, Gina Davis. Suzanne Sarandon, donc avec Barry Bostwick, les deux jeunes qui arrivent dans la maison, le Rocky Horror Picture Show.
Yes.
Eh oui. Ah oui, ah oui. Alors,
je vous dis pas en plus parce que pendant que les micros sont ouverts, il y a les grands anciens justifiés de la radio qui passent précautionneusement avec d'immenses cartons, trucs comme ça. Ça déménage.
Ouais, ouais. Ben c'est les accessoiristes, tu vois.
Ah bon, s'il te plaît. Ça va gueuler. Ça va gueuler.
Tu vas voir, bientôt, ils vont se ramener une noix de coco et faire cataclope, cataclope. Alors, à la semaine. Une semaine de télé sur une chaîne que tu as. Tu es content, j'espère.
No life. Non.
Alors, CinéFX. CinéFX qui fait la part belle au cinéma anglais.
Il y a les accessoiristes qui reviennent, cool. Ils sont pas contents.
Alors, la grosse majorité des films programmés sur CinéFX la semaine prochaine, semaine prochaine, jusqu'à vendredi, c'est des films anglais, donc à découvrir. Bon, ça commence cet après-midi avec, bon, ça c'est pas un film anglais, c'est un film américain, mais rien que le titre y tue, quoi, Zombie Honeymoon, quoi.
Et personnellement, Chantal commence à compter les passages des films de Jean Rollin quand même sur CinéFX. Ah ouais. notamment du viol du vampire qui a dû passer je sais pas mais au moins 15 fois depuis
ouais,
le début
ouais
du
non
mois.
Mais bon
là, ça doit pas coûter cher
donc là c'est cet après-midi ouais mais il y en a d'autres comme ça là, quoi. J'en ai repéré un aussi quand je préparais cette liste et tout, j'en ai repéré un et tout, je me suis dit mais merde il le passe tous les jours celui-là. Alors Zombie Honeymoon hein, de 2004 avec Tracy Coogan et Graham Sibley, hein, histoire d'un couple qui part en lune de miel et puis un mec qui se fait bouffer donc il commence à avoir des comportements bizarres. Tu vois le pitch il est terrible, hein, tu l'as jamais vu quoi. Par contre ce soir à 21h sur Cinéfix, L'Enfant du Lac, c'est anglais mais c'est récent, hein, ça date de relativement récent, ça date de 94, c'est un film Paul Morton. Alors c'est tiré de la fameuse histoire de l'Enfant du Lac, hein, je sais pas si vous connaissez cette histoire. Si l'enfant qui a disparu, qui est mort depuis des années et tout, et puis bon, ils émigrent, ils vont dans une maison près d'un lac et tout, et puis bon, bah l'enfant apparaît de nouveau quoi. Et si, bon bah ok, bon. Bande d'incultes. L'Enfant du Lac avec Emma Thompson et Adrian Dunbar entre autres. C'est ce soir à 21h sur Cinévix. Demain, alors là, Thomas, il va dire, tu fais quoi demain soir, Xavier? Je peux venir chez toi? Parce que tout d'abord, il y a 19h30, Blood from the Mummy's Tomb de 71, ça c'est de l'anglais, co-réalisé par Seth Holt et Michael Carreras avec Andrew Keir et Valérie Léon. Et surtout, à 21h, ne pas louper, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, 1936, Godfrey King avec Todd Slaughter, John Singer et Stella Rio. Waouh,
ah ouais,
ça déménage. Lundi à 18h10, La Nuit de la Grande Chaleur de Terence Fisher, 67. Hein, avec Christopher Lee, Patrick oui. Allen et Peter Cushing. C'est pas une histoire de vampire du tout.
Bonsoir, Cushing, Lee.
Ouais, Terence Fisher. Ouais. Non, pas du tout. C'est un film Hammer quand même. D'accord. Et à 21h.
Oui.
La vie future, également anglais, 1936 de William Cameron Menzies avec Raymond Massey. Raymond Massey, merde.
Je crois que ça a été une suite de Point Noutura. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein.
C'est l'histoire, en fait, le pitch est très simple. Hein, c'est une ville anglaise qui est rayée de la carte et tout. Et 30 ans après, on reconstruit cette ville. Alors donc, comme ouais. La ville anglaise, ça se passe en 36, ils imaginent ce que va être la ville. Du futur, 30 ans après, quoi, en 66.
Mais c'est la SF assez brillante. C'est-à-dire qu'on est loin, justement, de Metropolis, qui est assez noir. C'est beaucoup plus lumineux, brillant. Et c'est très, très bonne facture. Et la copie est d'excellente qualité. Hein. Il est vraiment très, très bon.
Donc, Raymond Massey, Edward Chapman et Ralph Richardson.
S'il vous plaît.
Qui est...
C'est toi le spécialiste.
Bah, hein. Non.
Bah, je sais pas.
Tony Richardson. Joely Richardson. La famille.
La famille Richardson, évidemment.
Et Redgrave.
Ah, d'accord.
Ils se sont... Bon, on laisse tomber. On reviendra ça plus tard.
Je viens de faire un bide, là.
Aïe. Non. Ah, mardi prochain sur Cinéfix. Alors là, celui-là, je vous l'ai déjà programmé, mais moi, il me fait pisser de rire chaque fois que je le revois. C'est le chaînon manquant de Picha à 18h. Après Tarzoun, la honte de la jungle, il y avait eu le chaînon manquant. Donc...
Avec des petites bites partout.
Ouais. Ouais, puis les bestioles et tout, quoi. Enfin bon, laisse tomber, quoi. Avec le singe.
C'est les films zygomato-sexuels, voilà.
Bon, alors c'est des.
C'est les films érotomanes et.
Voilà, c'est
un animé rigolo.
C'est pour adultes, c'est pas voilà. Pour les enfants, hein, ok.
C'est bon, j'ai vu. Ouais.
Et à 21h, le film déjà multidiffusé et tout, dont je vous avais fait un spécial une fois, Le Blob, mais pas l'original de en noir et blanc, ni celui en couleur avec Steve McQueen, celui de Chuck Russell avec Kevin Dillon.
Quelle année
88. Donc c'est mardi prochain, 21h.
C'est le plus connu celui-là.
De toi, oui.
Oui, c'était mon enfance.
Hein. Ouais, on n'a pas la même enfance. Moi, c'était Steve McQueen, tu vois. Alors bon,
ouais, t'as bien la chance.
Mercredi, Steve McQueen qui se fait dégommer, enfin pas dégommer, mais enfin bon, qui est là avec cette espèce de truc gélatineux et tout, quoi. Alors c'est marrant parce que ça a changé de couleur, hein, c'est comme Hulk, quoi.
Oui.
C'était vert dans le premier, là c'était celui-là, je crois que c'est rouge, quoi.
D'accord.
Rose, quoi. Genre le Jello, quoi, tu sais.
Hulk, moi je me souviens de la version grise, version verte. Et après...
Ouais, mais le gris c'était parce que c'était un problème d'impression en fait, uniquement pour ça, quoi. C'est-à-dire parce que les trams elles passaient pas et tout, et donc voilà, ils ont dit bon, ça déconne. Ils le voulaient gris au départ, et puis bon, comme les trams elles sortaient pas quand les comics étaient sortis, ils se sont dit bon, on va le mettre en vert, alors quoi, ça ira mieux et tout, quoi. Puis clac, là,
non, mais
c'est
à un moment, dans les années 80, fin 80, début 90, on l'a eu en gris.
On l'a eu en gris encore. Et
plus intelligent qu'en vert.
Et il faut savoir que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Kenneth Johnson, justement, voulait faire dans la série Hulk avec Lou Ferrigno et Bill Bixby, voulait le faire en rouge, puisque ça correspondait plus à la couleur de la colère. Mmh. Mais bon, Marvel avait dit, ah là là, ça va pas la tête, non? Wow! Et déjà quand on laisse toucher à nos personnages.
Dans les Ultimates, il est à nouveau en gris, hein, Hulk. Mmh.
Ouais. Okay.
Ensuite, mercredi, toujours sur Cinéfix, à 19h30, encore.
On va avoir du mal à finir la semaine.
Du vieil anglais, le pionnier de l'espace de 58 de Robert Day avec Bill Edwards, Marshall Thompson et Marisa Landi. Et à 21h, Face aux démons. Alors celui-là, c'est plus un anglais du tout, quoique c'est des descendants. C'est moins 16 là quand même, hein. 21h, c'est un film néo-zélandais, donc c'est normal hein, que ce soit bien trash et tout. Les néo-zélandais, ils cartonnent à fond les manettes. De Glenn Standing avec Jonathan Hendry, Karl Urban. Ah ouais, ouais. Et Cathy Wolf, jeudi prochain sur Cinéfix. Une perle de chez Perle, c'est les films que les Italiens bis s'amusaient à faire. Oh putain, ce film est beau de vachement, je refais le même.
Avec du à rouge 19h,
c'est Sergio Martino. Alors là, dès que je dis ça, il y a pas de problème hein, parce que lui a fait un film de cannibale, tu te pisses dessus de rire et tout ça. Enfin, il a fait plusieurs mais dont un qui vaut son pesant de cacahuètes et tout, c'est 2019 après la chute de New York. Et il a copié sur qui?
Sur John.
Ah bien sûr, bien sûr. 83-12 avec Michael Sitkoff et Valentine Monnier. Et à 21h aux portes de l'au-delà, un film de Stuart Gordon. Ouais, avec son acteur fétiche
Jeffrey Combs.
Bien sûr. Et Ken Foree. Ken Foree qui est zombie, le chef des zombies dans le film de Romero. Et on termine sur une bonne note, gentillette, sympathique. C'est le film du vendredi soir.
Celui qu'on voit dans Une nuit en enfer.
Ouais, peut-être.
Non, c'est Tom Savini.
C'est Tom Savini, ouais. Excusez-moi.
Ah, tu parlais de Jeffrey Combs, là?
Non, tu parles du chef des zombies.
Ken Foree, ouais.
Mais de chez Romero. Mais justement, chez Romero, on retrouve Sex Machine qui devient chef des zombies.
Oui, mais dans Zombie. Dans le film de zombies. Mais Romero, il a fait plusieurs films de zombies. C'est oui, pas Zombie qui pensait, ouais.
Il y a même un cinquième qui sort bientôt. Ouais. Diary of the Zombie.
Mais il est déjà sorti.
Ça y est, il est sorti.
Oui, il est tourné caméra sur l'épaule et tout. Ouais. Dont,
c'est pas cher.
Bruce nous a fait une chronique absolument mémorable dans l'émission de cinéma de mardi et tout, quoi. J'espère que cette émission est enregistrée, qu'on puisse continuer à rigoler comme ça.
Ils sont pas mauvais, les enfants.
On est tombé dessus.
Ouais, mais bon.
Ouais, là, bon, c'est mieux que les précédents, en tout cas.
Oui. Ah bon, tu trouves?
Bon, il y a eu pire. Et puis bon, c'est vrai que Bruce, il s'est un petit peu entraîné quand il a travaillé pour
pour Man Movies. Je vais plus oser aller les voir et tout. Les salauds.
Nous rappelons, c'était Xavier qui vient de dire tout ça.
Ouais.
Et que nous sommes en direct, donc les gars,
vous entendez, c'est Xavier. Hein.
Nous sommes totalement solidaires de ses propos.
ouais. Alors, Cinéfix vendredi prochain, Cool World par Ralph Bakshi, celui qui nous avait fait.
Oui.
Fritz the Cat,
Seigneur des Anneaux aussi en
dessin animé, oui.
Yes. Donc là, ça date de 93 et ça exploite un petit peu la même veine que Roger Rabbit, hein, personnage réel, personnage animé. Mais par contre, il y a
c'est assez le trash casting, et punk, hein.
Oui, ça avait Brad Pitt,
le casting terrible, Kim Basinger, Brad Pitt, Gabriel Byrne, Deirdre O'Connell. Ah oui, on se dit ah bah ouais, pourquoi pas, ouais.
Tombé dessus par hasard, on a eu une très très grosse surprise et en plus, il est très très bon scénaristiquement. Ouais. Il avait pas fait de bruit.
Eh ben voilà, donc Ralph Bakshi a fait au moins un film valable.
Oh l'enfoiré! Oh non, ça je vais pas laisser passer.
Nous sommes censés être toujours solidaires?
Ça je ne sais pas. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission supplément week-end d'aujourd'hui en cours de route?
Oui, c'était une émission en direct du garage en déménagement. Avec des interventions de JB et Manu, on a eu du Spirou, de la SF, alors attends, j'essaie de me relire, parce que j'ai de la SF, Xavier a encore réussi à parler de Shiro, voilà, du Blondinet avec un marteau, on a eu plein de jeux de mots pourris, à tort et à travers, du Hulk pas content qui fout le bordel, de l'homme araignée, du Père Noël velu, des jingles top 5 dans le désordre, pour un top 5 cinéma, un plantage informatique, du livre sur la boxe, du piano qui tue, du gamin dans un lac et des beats. Il y a eu des flip-beats aussi. Ouais.
nom d'une pluie en plein mois de mai, joli mois de mai, mai 68, ils ont manqué tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec ses chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires et écouter toutes les émissions, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.tk ou sinon vous allez sur le site de la radio, radio-fmr.net, et normalement vous tombez dessus par le jeu des liens et tout. Vous cherchez Supplément Weekend, vous tombez dessus, il n'y a aucun souci.
C'est oui, un truc rigolo, c'est que je viens de m'apercevoir qu'il y a du budget maintenant, du sport aggrave ses chroniques.
La suite des programmes sur Radio FMR.
Faut regarder derrière en fait, et puis on
prend les trucs. Ah oui, d'accord, un truc qui était déjà agrafé, ok.
Bien sûr. Récup, bon,
la suite des programmes sur Radio FMR avec ça, c'est du sport à 15h du reggae avec Jazz Not Dead. Excusez-moi, il n'y a pas de S possessif. 17h, ça c'est de la bonne viande, c'est de la découverte musicale. N'hésitez pas, vous allez vous faire du bien. 18h, Big Bang, c'est du rock. 19h, Made in Trance, on redémarre dans l'électro. Avec à 20h, la CTRO Experience. 21h, Trance du Two Step avec 9 Love. Et à 23h, le potager. Voilà, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio FMR 89.1 MHz, même heure, même fréquence. Et sinon, on différait sur nos sites associés. N'hésitez pas, vous pouvez faire les cons et participer, ça nous fait beaucoup de plaisir.
Oui, en différé si les émissions y sont. Hein.
Voilà, je vais essayer de rattraper le retard ce week-end. Ciao, bye bye, bien à vous. Merci
ciao
à tous de votre participation et de votre tolérance. À plus.